Christophe Nijdam, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes analyste chez Alpha Value, spécialiste du secteur bancaire. On va parler avec vous justement de ces banques. Si on s'attache uniquement aux résultats qui ont été publiés hein, au cours des derniers mois, on pourrait dire que globalement, on a l'impression que ça s'améliore du côté du secteur bancaire. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui sur ce secteur bancaire? Est-ce que vous trouvez que banques françaises, si on commence par elles, vont mieux?
Alors, elles vont relativement mieux. Vous savez qu'un des gros problèmes pour les banques françaises depuis notamment l'été 2011, c'était la question de la liquidité. Il y a une amélioration à ce niveau-là. Cela dit, cette amélioration n'est pas vraiment suffisante et cela demeure un petit peu leur talon d'Achille. Je dirais même, elles ont repris un peu leurs mauvaises habitudes, car en étant accro aux activités de trading, de marché, elles sont redevenues accro en matière de financement, au financement à très court terme et volatile procuré par les SICAV monétaires américaines.
Donc on pourrait dire que de ce côté-là, malgré peut-être ce qu'on a entendu, où on avait l'impression qu'il y avait des nouveaux programmes mis en place, des modifications quelque part du business model de la Banque universelle française, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Pour l'instant, le business model proprement dit n'a pas été modifié. D'ailleurs, la communauté des analystes attend avec beaucoup d'impatience que les grandes banques françaises cotées en bourse leur soumettent pour fin 2013, voire début 2014, des nouveaux plans d'affaires. Justement parce que nous avons, certains d'entre nous en tout cas, des inquiétudes quant au business model de ces banques françaises dites universelles.
Est-ce que les banques françaises sont à part en Europe ou est-ce que quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre ou ce qui se passe dans d'autres pays, elles sont, je dirais, de la même manière que les autres banques dans la même situation? Est-ce qu'il y a une vraie situation française?
Alors, il y a une vraie situation française et qui est liée à ce fameux modèle de banque universelle que l'on loue beaucoup. D'après moi, c'est plutôt une fragilité qu'une résilience. Et c'est évidemment lié à deux choses. D'une part, des activités de marché qui restent trop importantes et un réseau international, là aussi, trop important. Quelques chiffres sur les 37 banques européennes cotées que l'on suit sur 13 pays. Quand on regarde justement la taille des activités de marché au bilan, sur les 37 banques incluant les banques françaises, c'est à peu près 33% du bilan. Quand on regarde uniquement les 4 banques cotées que l'on suit, BNP, Natixis, Crédit Agricole et Société Générale, c'est 39%. Bref, c'est 6 points de plus en termes de taille d'activité de marché, et l'on retrouve ces 6 points de plus, ce que j'appelle le talon d'Achille, au passif, c'est-à-dire au niveau du financement. Et quand on regarde les financements court terme, dans le cas des banques françaises, effectivement, ils sont dépendantes plus que les autres banques européennes à hauteur du même 6% de la taille du bilan, ce qui n'est pas négligeable.
Donc aujourd'hui, on pourrait dire en même temps que la Banque Centrale Européenne est toujours là pour soutenir les banques. Il n'y a pas de changement de discours d'ailleurs de M. Draghi à ce sujet. Le
Pour
guichet reste
l'instant,
ouvert.
le guichet reste ouvert et c'est tant mieux parce que la dépendance des banques françaises au guichet de la BCE, d'après moi, n'est pas près, disons, de s'effacer. Cela étant dit, ça n'est pas la vocation d'une banque centrale que de fournir des liquidités à telle ou telle banque parce que son modèle économique fait qu'il est plus dépendant de financements court terme volatiles. Et quand ces financements court terme volatiles s'évanouissent, eh bien, il ne reste plus que le dernier rempart de la banque centrale. Mais vous avez quand même remarqué qu'en matière de banque centrale, en tout cas aux États-Unis, ce qui a créé des soubresauts sur les marchés financiers ces dernières semaines, on parle tout doucement justement de retirer un tout petit peu le quantitative easing, donc des liquidités. Et l'impact a été assez net sur les marchés. J'imagine que dans les banques françaises, les salles de marché ces dernières semaines, les résultats sont plutôt médiocres à cause de cela.
Alors, on pourrait dire qu'en même temps en France, si on revient à la France, que du côté du gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, au mois de mai dernier, il avait l'air de dire qu'effectivement, ou de contester en tout cas une analyse de Moody's hein, sur le sujet, qui parlait de sommes importantes pour les banques françaises. Et lui, il avait l'air de rassurer, on va dire, les marchés en disant finalement non, les banques françaises sont dans une situation tout à fait favorable.
Oui, alors le gouverneur est dans son rôle. Cela dit, il a peut-être fait un peu manque de réserve et de retenue pour un banquier central, parce que lors de cette conférence de presse pour la remise du rapport annuel de l'autorité de contrôle prudentiel, il a été assez virulent et violent vis-à-vis de l'agence de notation Moody's. Ça n'est pas moi qui vais défendre une agence de notation américaine. Il en demeure pas moins que, ayant regardé moi aussi les chiffres, je corrobore les chiffres avancés par Moody's, qui parle d'un déficit de liquidité de 1 200 milliards d'euros pour le système bancaire français. Moi, j'arrive sur un périmètre un petit peu plus petit, puisque on n'intègre pas dans notre couverture des entreprises bancaires non cotées, comme les banques populaires, alors qu'on couvre la filiale Natixis. J'arrive à un chiffre très similaire de 1 029 milliards. Donc, ça se recoupe. Et ça se recoupe, ce chiffre, avec d'autres analyses faites, comme par exemple le cabinet McKinsey.
Aujourd'hui, des chiffres que contestent les banques françaises en disant qu'effectivement, elles ne sont pas dans ces besoins-là, ou en tout cas, on voit dans d'autres pays, à l'inverse, hein, qu'il y a des besoins en Angleterre, qu'il y a un certain nombre de besoins. Les banques françaises seraient à part ?
Ben, elles sont à part en ce sens qu'en termes de besoins pour la liquidité, elles sont champions d'Europe. McKinsey, qui a sorti une étude sur le ratio de liquidité à moyen terme, ce qu'on appelle le NSFR, à ne pas confondre avec celui à 30 jours qui s'appelle le LCR, a effectivement indiqué qu'au niveau du système bancaire européen, il manquait à peu près pour la liquidité 1 200 milliards d'euros, une fois encore. Bon. Mais pour les seules banques françaises, c'est 433 milliards d'euros et c'est le montant absolu le plus important de tous les systèmes bancaires européens.
Alors on pourrait se dire, si votre analyse est juste, pourquoi les banques françaises font ça, restent dans cette position, ne changent rien, sachant que depuis, maintenant c'est au Sénat, il y a une loi de régulation bancaire, on a l'impression qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, pourquoi ne change-t-elle pas de stratégie ?
Elle ne change pas. Première chose, c'est que la loi bancaire que vous évoquez ne change rien. Donc, puisque la loi ne change rien, pourquoi changerait-elle ? Deux petits chiffres très rapides là-dessus, sur la loi donc de M. Moscovici. La partie du chiffre d'affaires d'une grande banque, comme par exemple BNP Paribas, qui devrait être filialisée, même pas séparée, c'est 1,5% de son chiffre d'affaires. Les préconisations européennes qui vont dérailler à cause de la loi Moscovici, les propositions européennes du rapport Liikanen sur la même banque, c'est pas 1,5%, c'est 13%. Et ça, en plus, il s'agit des chiffres 2011. Donc en fait, le projet français est 26 fois moins ambitieux que les propositions européennes. Donc du coup, les banques françaises se disent « bon, on change pas trop ».
Alors, on a vu en Angleterre, en revanche, qu'il y a un certain nombre de mesures, et un effet encore, bien entendu, mais on parle de criminalisation, hein, en quelque sorte, des attitudes des banquiers qui franchiraient les lignes jaunes dont on a parlé, et de report de bonus au bout de 10 années, donc de vraiment des mesures assez fortes, et surtout la criminalisation, ça paraissait un argument assez fort contre les banquiers qui seraient tentés de refaire la même chose.
Oui, tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas de pénalisation dans la loi française, alors qu'elle est envisagée dans la loi allemande qui s'est, elle, engouffrée sur les propositions françaises. Un petit point de rappel historique concernant les activités de marché, donc ce qu'on appelle les banques d'affaires. Auparavant, avant que ces banques d'affaires soient soit absorbées dans le cadre de banques dites universelles, soit introduites en bourse comme aux États-Unis, comme un Goldman Sachs, comme un Morgan Stanley, ces banques d'affaires étaient juridiquement ce qu'on appelait des partnerships. Bon, les partnerships, ça voulait dire qu'à cette époque-là, les partners étaient en risque illimité sur leurs biens propres. Croyez-moi que ce genre de choses fait qu'à l'époque, ils ne prenaient pas les risques inconsidérés qui ont été pris sur les marchés avec l'argent des autres.
Le mot de la fin, on peut rappeler aussi et préciser que vous faites partie des meilleurs analystes du secteur reconnu par Bloomberg au cours des 12 derniers mois, puisque vous êtes numéro 2 ex aequo. Donc vous connaissez bien et vous êtes reconnu sur ce secteur. En conclusion, pourquoi ça ne change pas ? On en a parlé, mais ça veut dire concrètement quoi ? Que la crise du secteur bancaire n'est pas terminée en France ? La crise des banques françaises n'est pas terminée ?
Alors la crise n'est pas terminée pour les banques françaises pour une simple raison, c'est que le modèle dit universel est de mon point de vue plombée de façon durable et que pour l'instant, elles ne savent pas encore quel modèle lui substituer pour l'avenir. Les dirigeants actuels des banques françaises n'avaient connu que ce modèle universel qui, quelque part, était une illusion. Une illusion en ce sens qu'on gagnait de l'argent dans les salles de marché, avec des risques importants, mais tout simplement sous couvert de la garantie implicite de l'État. Ceci est désormais un peu plus compliqué parce que ça engendre un déséquilibre énorme au niveau de la liquidité et la crise de liquidité du deuxième semestre 2011 l'a rappelé extrêmement violemment. Pour justement être un peu moins vulnérable au niveau de la liquidité, les banques françaises ont du coup dû maintenir des dépôts auprès des banques centrales beaucoup plus importants que par le passé, multipliés par 10 par rapport à 2006. Or, ces dépôts sont très mal rémunérés et ça, ça plombe le modèle économique parce qu'il y a moins de marge nette d'intérêt, il y a moins de chiffre d'affaires.
Eh bien, on suivra forcément ce qui se passe sur ce secteur bancaire, vu l'analyse que vous faites aujourd'hui. Merci Christophe Nijdam d'avoir été avec nous. On rappelle, vous êtes donc analyste chez Alpha Value.
Merci Didier.